Imagine la scène. Une immense entreprise technologique décide du jour au lendemain de tout miser sur l'intelligence artificielle. Le but, évidemment, réduire les coûts.
Classique. On remplace les humains par des algorithmes.
Voilà. En fait, ils virent une bonne partie de leurs développeurs juniors et y mettent des agents de codage automatisés à la place. Sur le papier, franchement, c'est le rêve, quoi. Du code généré en quelques secondes pour à peine quelques centimes.
Sauf que la réalité finit toujours par rattraper ce genre de plan.
Totalement. Parce qu'on avance de 6 mois. Et là, c'est le mur. Leurs architectes les plus expérimentés, ceux qui coûtent le plus cher, font des heures supplémentaires astronomiques.
Laisse-moi deviner, pour traquer des bugs invisibles.
Des bugs, des failles de sécurité hyper subtiles et des hallucinations complètes qui ont été pondues par l'IA. Donc, au lieu de faire des économies, le budget explose complètement.
C'est le grand paradoxe de notre époque, en fait. On nous promet qu'on va innover à la vitesse de la lumière, mais on a surtout l'impression de foncer dans un mur, juste de manière beaucoup plus efficace.
C'est exactement pour ça qu'on fait cette exploration approfondie aujourd'hui. On va plonger au cœur d'une solution fascinante, la méthode Foyer. C'est un framework créé par Gilles Maury et on va se concentrer sur un outil précis de cette méthode, le simulateur de veto et de coût.
Ouais, et c'est un outil qui est vraiment salutaire en ce moment. Parce que ce vertige qu'ont les entreprises face à la perte de contrôle, c'est précisément ce qui a motivé la création de cette méthode. Le but de la méthode Foyer, c'est pas du tout de freiner l'innovation, c'est plutôt de concevoir des logiciels qui soient sobres, durables et surtout transmissibles.
Transmissible, c'est un mot fort.
Bah oui, parce que pour y arriver, la méthode place au centre de tout un concept philosophique non négociable, ce qu'ils appellent le répondre d'eux.
Le répondre de. D'accord.
C'est une idée simple, mais hyper brutale. Face à n'importe quel système, un professionnel de la tech doit toujours pouvoir regarder ses pairs ou la justice dans les yeux et dire « Je peux répondre de ce résultat et j'en assume la responsabilité. »
C'est une super philosophie, très noble. Mais en lisant nos sources sur cette méthode, moi, c'est vraiment le simulateur de veto et de coût qui m'a sauté aux yeux.
Ah ben, c'est la pièce maîtresse pour l'application pratique, ouais.
Du coup, j'ai besoin que tu éclaires un peu ma lanterne. Comment on passe d'un concept moral très abstrait, comme le fait d'assumer ses responsabilités, à une espèce de calculatrice financière?
En fait, le pont entre la philosophie et les maths, ça se fait via ce que la méthode appelle la grille d'arbitrage hybride. Dans la méthode Foyer, on a toujours une boucle de rétroaction. L'outil externe, donc l'IA, objective un résultat, il propose un truc. Mais à la toute fin, c'est l'humain qui tranche.
D'accord, décortiquons tout ça. C'est un peu comme le pilote automatique dans un avion de ligne, en fait.
Ouais, l'analogie est parfaite.
L'ordinateur calcule la trajectoire, il l'ajuste peine à pousser, tout ça. Mais au final, s'il y a un crash, c'est pas l'ordinateur qui va en prison, c'est le commandant de bord qui répond de la sécurité des passagers.
Ce qui est fascinant ici, c'est que ce simulateur, pour reprendre ton analogie, c'est le tableau de bord du pilote. Il va montrer au commandant de bord ce que ça va vraiment lui coûter en effort de surveiller cette IA. Il te dit attention, utiliser ce pilote automatique sur ce trajet, ça va te demander une vigilance tellement constante que tu seras épuisé avant l'atterrissage.
Ouais, ça casse complètement cette espèce de complaisance technologique où on se dit chouette, j'intègre une IA, je croise les bras et c'est gratuit.
Totalement. L'illusion de l'IA autonome s'effondre très vite. Le simulateur oblige les décideurs à visualiser mathématiquement la charge de cette responsabilité. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le simulateur ne commence même pas par calculer des prix.
Ah bon? Il fait quoi d'abord?
Il agit d'abord comme un filtre de gouvernance impitoyable. C'est un vrai parcours du combattant avec quatre portes de veto qu'on appelle lexicographiques.
Oula, lexicographique, c'est un peu lourd comme terme. Concrètement, pour une équipe de dev, ça implique quoi?
Ça veut simplement dire qu'il y a un ordre strict. Tu ne peux pas regarder la porte numéro 2 si tu n'as pas franchi la une. Si une porte se ferme, on arrête tout ou on refait l'architecture. La première porte, c'est l'altérité.
L'altérité, donc l'indépendance.
Exactement. Sommes-nous dépendants d'une boîte noire externe? Imaginons un hôpital qui veut utiliser une IA pour trier des dossiers patients. S'ils envoient ces données ultra-sensibles vers une API tierce gérée par une boîte étrangère dont ils ne maîtrisent pas l'algorithme, là, l'altérité est totale.
Et c'est un risque énorme.
Énorme! Le simulateur demande une réponse claire. La direction accepte-t-elle ce niveau de dépendance?
Attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on risque pas de paralyser l'innovation avec ces portes si on prend l'exemple d'une start-up qui n'a pas les moyens d'héberger son propre modèle géant Elle bloque à la première porte de l'altérité et son projet est mort-né.
Non, c'est une super question, mais le veto n'est pas là pour interdire l'IA ou tuer des projets. Le but, c'est la lucidité architecturale.
La lucidité, d'accord.
Voilà. Si la start-up accepte cette altérité par nécessité, elle doit immédiatement concevoir les garde-fous pour en répondre. Elle va, par exemple, ajouter une couche d'anonymisation avant d'envoyer les données à l'API. Et c'est ça qui permet d'ouvrir la deuxième porte, la réversibilité.
La réversibilité. Donc, est-ce qu'on peut faire marche arrière ?
C'est ça. Si ton architecture est tellement imbriquée avec ce fournisseur d'API que le jour où il multiplie ses prix par 10, tu fais faillite, ton projet est recalé par le simulateur. Tu dois prouver que tu peux débrancher cette IA propriétaire et mettre un modèle open source à la place sans tout recoder.
Ça, c'est une sacrée sécurité. Et la troisième porte ? J'ai vu le terme « érosion » dans les sources.
L'érosion, ouais. Le code classique, c'est déterministe. Une fonction écrite il y a 10 ans fait la même chose aujourd'hui. Mais une IA probabiliste, ça vieillit.
Ah oui, parce que le monde change autour d'elle.
Absolument. Le vocabulaire change, les frameworks informatiques évoluent. L'IA va subir une dérive, ses performances vont baisser. La porte de l'érosion te demande « Es-tu budgété le réentraînement régulier de ce modèle ?» Parce que c'est pas gratuit.
Et si on valide l'altérité, la réversibilité et l'érosion, on arrive enfin à la quatrième porte. Le coût ?
Exactement. Et là, on rentre dans la mécanique interne du simulateur. Et c'est là que réside le plus grand piège de l'IA moderne.
Alors comment les simulateurs calculent ça ? Ils se basent sur quoi ?
Ils se basent sur un outil très classique en gestion de projet, le WBS, le Work Breakdown Structure. En gros, on découpe le projet en plein de petites tâches. Et pour chaque tâche, l'architecte doit faire un choix. Soit l'IA travaille en solo, soit elle travaille en binôme.
En binôme, c'est-à-dire l'IA génère et un humain valide derrière.
C'est ça. Et pour maintenir le répondre des, la quasi-totalité des tâches critiques impose le binôme. L'humain doit effectuer des passes d'agent, donc vérifier, corriger et valider. Et le simulateur démontre mathématiquement comment ce coût humain écrase complètement le coût de l'IA. Il détruit ce qu'on appelle l'illusion des tokens.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement ? Faut vraiment qu'on donne un exemple pour ceux qui nous écoutent.
Bien sûr. Prenons la génération d'un module de paiement. L'IA, en termes de puissance de calcul ou de tokens, va te facturer quoi ? Allez, 2 euros.
2 euros pour un module de paiement, c'est Marik. Le directeur financier ouvre le champagne.
Sauf que le code est probabiliste. Il y a peut-être une faille de sécurité planquée dedans. Donc, pour assumer le répondre d'eux, un développeur senior doit faire sa passe d'agent. Il va passer, disons, 3 jours à relire et corriger cette logique générée par la machine.
Et un développeur senior, ça coûte cher.
Si on le facture 800 euros par jour, la tâche ne coûte plus 2 euros. Elle coûte 2404 euros.
C'est un truc de fou. En fait, c'est exactement comme acheter une imprimante ultra moderne au supermarché à un prix totalement dérisoire.
Ah oui, le classique.
Et tu te ruines quelques semaines plus tard en rachetant les cartouches d'encre propriétaires. Sauf qu'ici, la cartouche d'encre, c'est le temps d'attention extrêmement coûteux d'un développeur senior qui doit s'épuiser à repasser derrière l'IA.
L'analogie est parfaite. L'attention humaine est la ressource la plus chère. Ce qui nous amène à la notion de souveraineté. Puisque le temps humain de supervision est un gouffre financier, le choix de l'infrastructure d'hébergement devient critique.
Donc on compare quoi dans le simulateur EA ?
On compare l'usage d'une API tierce, une infrastructure louée et une chaîne possédée, donc la souveraineté totale. Et c'est là qu'on assiste à l'affrontement entre le verdict naïf et le verdict foyer.
Le verdict naïf, j'imagine que c'est le choix facile.
Ouais, c'est le moins disant. On garde juste le prix d'entrée de l'API, les 2 euros de token. Ça a l'air super rentable.
Et le verdict foyer ?
Le verdict foyer, c'est la réalité. Le simulateur rend visible le risque caché. Il intègre le coût de ce fameux binôme humain, le coût de supervision pour compenser le manque de réversibilité et le coût du risque, genre une fuite de données ou un changement de tarif de l'API.
Cela soulève une question cruciale. Je me mets à la place de l'audience. Le verdict foyer est hyper rationnel. Mais dans un monde où les dirigeants veulent de la vitesse, des réductions de budget là, tout de suite, comment un architecte peut justifier le surcoût d'un modèle souverain en interne face au verdict naïf qui flatte le budget immédiat ?
Eh bien, c'est précisément la raison d'être du simulateur. Sans ça, l'architecte arrive juste avec des craintes un peu floues et il se fait balayer par un tableau Excel. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, le simulateur objective le danger financier à long terme.
Il vient armé avec des chiffres, du coup.
Exactement. Il dit « Le verdict naïf nous fait économiser 50 000 euros ce mois-ci ». D'accord, mais le verdict foyer montre que l'opacité de ce modèle va nous coûter 200 000 euros en heures de débogage humain l'année prochaine.
C'est imparable.
Avoir un modèle souverain, ça coûte plus cher à l'initialisation, c'est vrai, mais ça permet de réduire drastiquement ses coûts cachés de supervision sur le long terme.
Bon, ça fait énormément d'informations à digérer. Si on devait récapituler les piliers essentiels de ce simulateur pour notre audience, tu dirais quoi ?
Je dirais qu'il y a 5 points clés à retenir. Le premier, c'est que l'objectif du simulateur, c'est d'objectiver l'arbitrage hybride pour maintenir la responsabilité humaine. Le répondre d'eux.
Deuxième point. Tout projet doit affronter 4 portes de veto strictes. L'altérité, la réversibilité, l'érosion et le coût.
3. Le coût des tokens, c'est une illusion complète. C'est toujours le coût de supervision du binôme humain qui va dominer le calcul final.
Quatrième point, le choix de la souveraineté. Genre API externe ou modèle en interne, ça modifie radicalement l'exposition au risque.
Et enfin, 5. Le verdict foyer, c'est le bouclier de l'organisation contre le piège du verdict naïf qui flatte le court terme.
C'est très clair. Et en termes d'enseignement philosophique ou plus globaux sur la méthode foyer ?
J'en vois 3 principaux. Déjà, l'obligation de répondre d'eux a un prix inévitable. La techno ne nous décharge jamais de notre responsabilité éthique. Ensuite, la gratuité de l'IA est un mirage technique. Le vrai investissement, c'est l'attention humaine. Et le dernier, la durabilité d'un logiciel se décide dès la conception. Un choix non réversible aujourd'hui, c'est une dette mortelle demain.
Une dette insurmontable, ouais. Franchement, c'est fascinant parce que ça remet complètement l'humain au centre de l'équation financière. Ce qui m'amène d'ailleurs à une pensée finale un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent et qui aiment prolonger le débat.
Je t'écoute.
Si on y réfléchit, les modèles d'IA vont finir par ne plus rien coûter du tout en puissance de calcul d'ici quelques années. Le token tend vers zéro. Donc, est-ce que la capacité d'une entreprise à financer l'attention humaine pour surveiller ses IA ne deviendra pas le seul et unique critère de survie dans l'industrie tech ? Une boîte vaudra uniquement par la capacité d'attention de ses humains. C'est une question vertigineuse.
Oula, ouais, c'est le genre de question qui empêche de dormir, mais c'est très juste.
En tout cas, merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. La méthode foyer et son simulateur nous montrent bien que l'innovation aveugle, c'est de l'histoire ancienne. Merci à ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette exploration approfondie. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous intégrez un outil magique, regardez d'abord le prix de l'encre. À bientôt !